Radio de la Paix, la grande interview. Bonjour à tous, bienvenue à la grande interview, notre émission d'échange sur les questions d'actualité et de développement. Pour ce numéro de ce jour, nous recevons le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, Dr. Flamoké, et notre invité. Avec lui, nous parlerons du colloque sur le dialogue interreligieux qui a enregistré sa 7e édition ici à Abidjan, les 25 et 26 juin dernier, sur le thème « Religion et migration ». Cet atelier sous-régional a regroupé les participants venus du Bénin, du Togo, la Guinée, Conakry et la Côte d'Ivoire. C'est une initiative de la Fondation Konrad Adenauer, l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire et le Centre de recherche politique d'Abidjan. Docteur Flamoké, avec vous, nous allons revenir sur les actes de ce colloque concernant la migration telle que perçue par les religions. La grande interview, présentation Ben Diakité, réalisation Sila Mamadou Kaba. Bonjour, docteur Flamoké.
Bonjour, monsieur.
Vous avez décidé de organiser ce colloque d'Abidjan, comme je le rappelais tantôt en introduction, sur le thème religion et migration. Pourquoi vous avez choisi ce thème?
Merci beaucoup, Ben Diakité. Je voudrais commencer par remercier les institutions partenaires sur cette question, en l'occurrence l'ambassade d'Israël et la Fondation Konrad Adenauer. Donc je voudrais ici, sur votre antenne, au nom du Centre de recherche politique d'Abidjan, remercier ces deux institutions et leurs représentantes respectives, Dr Stéphanie Brinkel pour la Konrad Adenauer Stiftung et l'ambassadeur Roni Yededia Klein, ambassadrice de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Disons que les constats sont clairs. Quand nous observons aujourd'hui les mouvements humains, on se rend compte qu'ils sont de plus en plus denses et ils se densifient davantage. Il y a la migration de pays à pays, il y a des migrations également internes. Si je prends l'exemple des migrations internes, en Côte d'Ivoire en 2022, l'OIM a enregistré 322 000 personnes étaient déplacées internes. Cela signifie que le phénomène de la migration ne concerne pas uniquement une sous-région, un continent ou le monde, mais à l'intérieur des États aussi, la problématique des migrations se pose. Et donc, nous avons estimé que cette problématique des migrations étant d'actualité et d'un intérêt capital, nous avons estimé que faire intervenir les religieux dans le cadre d'un dialogue interreligieux qui vise tout simplement à la tolérance interreligieuse, mais à briser également les frontières entre les différentes communautés religieuses, accepter la foi de l'autre, tout en tentant d'atteindre cet objectif, les amener à réfléchir sur une problématique d'intérêt commun, à partir de laquelle on pourrait voir également des convergences. Étant donné que les religieux sont investis d'une autorité morale, il est apparu très intéressant pour nous, au Centre de recherche politique d'Abidjan, comme rédacteur principal de cette EDM, de mettre sur la table, en accord avec nos partenaires, la question relative à la religion et à la migration. Donc, réfléchir sur le lien qui existe entre religion et migration, comment les confessions religieuses, comment les religieux d'abord appréhendent la problématique de la religion et comment ils se comportent face au phénomène lui-même. Voici ce qui nous a amené à organiser ce colloque.
Dans votre introduction tout à l'heure, Dr Flamoké, vous dites qu'on a à la fois des migrations en interne et des migrations en externe. Qu'est-ce qui explique ces mouvements de personnes, soit à l'interne ou à l'extérieur?
Il y a plusieurs facteurs. C'est la conjugaison de plusieurs facteurs qui expliquent les mouvements migratoires. On a par exemple la pauvreté et le manque d'opportunités économiques. On peut citer aussi les catastrophes naturelles, les questions liées à l'insécurité. Quand nous prenons l'insécurité dans le Sahel, par exemple, qui pousse les populations du Burkina Faso à migrer vers la Côte d'Ivoire et à s'installer dans la région du Bunkani, où on dénombre aujourd'hui une 60 000. Donc on voit bien qu'il y a des facteurs de ce type-là. Il y a aussi des questions liées même à l'existence, donc des problématiques existentielles, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. Tous ces éléments sont explicatifs des déplacements des personnes.
Quelle est la place de la migration dans la religion?
Bien, je ne suis pas religieux, mais après avoir suivi attentivement les interventions des différents guides religieux, que ce soit au niveau du judaïsme, que ce soit au niveau du christianisme, que ce soit au niveau de l'islam, ou encore des religions africaines endogènes, il y a un élément commun. C'est que les références dans ces différentes religions ont elles-mêmes pratiquer la migration. On parle dans l'histoire de l'Église, par exemple, le déplacement des populations vers l'Égypte après le retour de ces populations en terre d'Israël. Donc, il s'agit des migrations. Le professeur Karamoko Yahya, qui a donné la position de l'islam ou bien la compréhension du phénomène migratoire par l'islam, a expliqué que le prophète Mahomet lui-même, paix et salut sur lui, s'est déplacé de la Mecque à Médine à un certain moment. Ce sont des références qui, elles-mêmes, ont pratiqué la migration. Donc, les religions, fondamentalement, ne sont pas opposées au fait que les hommes se déplacent, mais conçoivent cela comme étant un élément essentiel et inhérent à la vie humaine. Et donc, voici la première compréhension des religions que nous avons pu tirer de ce phénomène.
Comment est perçu le migrant dans ces religions, puisque vous avez écouté, vous avez suivi l'intervention des religieux sur la question?
Bien, je veux me référer à deux interventions. L'intervention du professeur Amouzouvi, qui s'est prononcé sur la compréhension du migrant dans les religions endogènes africaines, cette perception-là va de pair ou alors coïncide également avec la perception des trois religions révélées. Le migrant n'est pas perçu comme un envahisseur, il n'est pas perçu comme une menace. Bien au contraire, le migrant est celui à qui on donne gîte couvert, de sorte qu'il se sente à l'aise, comme chez lui. Et le professeur Amouzouvi avait même donné l'image de ce que le migrant même était parfois plus important que l'étranger. Disons l'étranger, donc par voie de conséquence, le migrant, on peut aller jusqu'à ce seuil, avait beaucoup plus d'importance parfois que les autochtones eux-mêmes, parce qu'on était capable de laisser son lit, d'après son expression, céder son lit à l'étranger qui vient. Donc les religieux face aux migrants, la perception que les religieux ont des migrants n'est pas une perception négative, bien au contraire, c'est une perception empreinte de fraternité, d'altruisme, de générosité, et donc le migrant n'est pas une menace, en tout cas a priori.
Vous avez expliqué plus ou moins les causes tantôt de ce déplacement, de ce mouvement de ces personnes-là. Dans la religion, l'espace, le temps, on arrive à les franchir facilement, parce que dans l'historique religieux, ces déplacements n'était pas codifié, si on peut s'exprimer ainsi. Les gens se déplaçaient comme il se doit. Aujourd'hui, on a des États, des territoires. Ces déplacements sont un peu difficiles. Comment ces différentes formes de codification de la migration, comment les hommes de Dieu ou les hommes de culte, comment ils perçoivent ça?
Évidemment, les choses ont évolué. Nous sommes dans le monde que nous connaissons, où les États sont confinés à l'intérieur de frontières, où il y a des choses à protéger, où il y a des règles auxquelles il faut obéir. Et tous ces éléments font que la migration est codifiée. On va donc mettre en place un système de visa pour surveiller ou alors contrôler les flux des populations vers les États et ainsi de suite. Donc, cette exigence, l'instauration des visas par exemple, pourrait s'expliquer par le fait que certains pays ou alors les pays estiment qu'à un certain moment, il faut contrôler le flux migratoire. Parce que des études peuvent montrer, par exemple, qu'une forte pression migratoire agit également sur les ressources. Donc, il y a des défis qui sont inhérents à la migration. Voici ce qui explique, de mon point de vue, la prise de position des différents États sur la question du... Donc, les visas en soi ne sont pas des problèmes a priori, mais c'est toute la politique migratoire qui est derrière cela qu'il faut parfois questionner. On se rend compte qu'il y a des environnements, par exemple, où la politique migratoire est trop corsée, où à la limite, on n'a même pas besoin d'étrangers, à la limite, ou alors on va parler d'immigration choisie, en tout cas tous les concepts possibles pour faire une sélection et agir donc sur les mouvements des hommes, alors que nous sommes dans un monde globalisé. Le monde globalisé signifie aussi la mobilité des hommes, et donc il y a des contradictions.
Docteur Fouamouki, vous avez parlé dans le cadre donc des religions à révéler, vous avez expliqué que, apparemment, la migration était au cœur de ces religions. Mais qu'en est-il de nos croyances africaines, dans notre culture, dans notre éducation? Quelle est la place qu'on accorde aux migrants et quel est le regard de ces hommes de culte-là sur ces mouvements de personnes?
Disons que le dialogue interreligieux que nous organisons est à sa 7e édition, vous avez eu à le dire. Les premières années, nous n'avons pas invité des représentants des religions endogènes africaines. Et nous nous sommes rendus compte, après 3 éditions, que cela constituait une sorte de lacune. Alors nous avons fait intervenir les responsables des religions africaines endogènes pour confronter les positions avec celles des trois principales religions révélées que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le professeur Abou Zouvi, par exemple, dans son exposé, a montré que dans nos cultures, dans nos perceptions, mais aussi dans les croyances africaines, le terme étranger même n'existe pas à la limite. Parce que traditionnellement, les portes ne sont pas fermées. En Afrique, on ne ferme pas de portes. Quand on fait de la nourriture, on fait la nourriture en pensant qu'au bout de la nuit, un étranger, entre griffes, pourrait nous rendre visite pour qu'il trouve à manger. Cela signifie que la question de l'étranger et du migrant, dans la perception africaine, n'a pas véritablement sa raison d'être. Donc, c'est ce qui transparaît aussi et c'est ce qui est dit d'ailleurs de façon explicite dans les communications des différents représentants des religions endogènes, mais aussi qui ont présenté des aspects de la culture africaine.
Chers auditeurs, vous suivez Radio de la Paix, vous êtes à l'espace La Grande Interview avec pour invité Dr. Flan Moké, directeur du Centre de Recherche Politique d'Abidjan, qui revient sur les recommandations du colloque d'Abidjan sur le dialogue interreligieux avec pour thème religion émigration. Docteur Flan Moké, au cours donc de ce colloque aussi, il a été évoqué la question, la problématique des pèlerinages dans les religions. Ces déplacements, ces mouvements de fidèles d'un endroit A vers un endroit B pour se recueillir, pour prier, pour s'inspirer donc souvent de la démarche, du comportement des guides. Ce pèlerinage a été parfois aussi montré du doigt comme des facteurs d'aggravation des migrations. Comment on peut gérer cela?
Alors, deux positions s'affrontent ici. On a noté la position du pasteur Akpa, qui a expliqué le fait que le pèlerinage en soi ne constituait pas un phénomène de la migration. Parce que ce sont des piliers, dans l'islam par exemple, mais aussi dans toutes les religions, le déplacement, le judaïsme par exemple, les gens qui se rendent sur le Sinaï, ou encore au christianisme, ceux qui se rendent à Lourdes, etc. Ça fait partie des piliers, des fondements des religions. Donc a priori, deuxièmement, les pèlerins en fait ne sont pas appelés à s'établir dans la durée, dans les lieux où ils se rendent. Donc on ne devrait pas a priori confondre pèlerinage et migration. De ce point de vue, le pèlerinage ne devrait pas constituer alors un facteur d'aggravation des migrations. Mais on a pu noter aussi, avec l'intervention d'un participant du Togo, que à la faveur des pèlerinages qui sont organisés, on se rend compte qu'il y a des pèlerins qui se fondent dans la nature. Du coup, si on organise des pèlerinages pour aller à Lourdes, ou alors pour aller en Terre Sainte, ou pour aller, on peut constater, malheureusement, que quelques-uns de ces pèlerinages-là se volatilisent dans l'environnement. À partir de ce moment, on peut indiquer que le pèlerinage ici peut être un facteur, effectivement, d'aggravation de la migration irrégulière.
Quoi aujourd'hui, la migration fait peur? Or, quand on se fonde sur les livres sacrés, si on se fonde sur nos cultures, l'étranger est l'autre moi, oui. Donc qui ne devrait pas faire peur normalement. Mais pourquoi aujourd'hui avons-nous peur de l'étranger, avons-nous peur de la migration?
Alors, le premier problème, de mon point de vue, c'est l'insertion. C'est-à-dire que les différents systèmes s'inquiètent de ce que le migrant ne se dispose pas à s'intégrer davantage dans la société qu'il accueille. Donc, au lieu de se mettre en phase avec cette société, il se met alors en porte-à-faux des règles, des lois. À partir de ce moment-là, les systèmes politiques se rétractent et durcissent leurs lois. C'est un des facteurs. Le deuxième facteur, c'est la pression que le flux migratoire, par exemple, pourrait avoir sur les ressources. Donc, s'il y a une pression sur les ressources, en termes de redistribution, eh bien, cela constitue des challenges pour les différents systèmes politiques. Voici deux éléments fondamentaux qui expliquent cela. Aujourd'hui, dans un contexte accentué par l'extrémisme violent, la méfiance de certains systèmes politiques, c'est que de certains États, c'est que à la faveur de la migration, ou bien en tolérant la migration, on favorise également la venue et les activités des personnes malsaines et qui pourraient servir de causes peu nobles. Voici quelques éléments qui expliquent pourquoi aujourd'hui les États, d'abord, se rétractent. Au niveau des individus eux-mêmes, c'est à mon avis la forte prégnance de l'individualisme. Mais cet individualisme-là est lié aussi aux contingences existentielles. Si par le passé il était facile d'accueillir quelqu'un et que nourrir une quinzaine de personnes à la maison, un sac de riz de 50 kilos ou deux sacs de riz de 50 kilos à un coût abordable pouvait se faire, aujourd'hui ça devient un véritable challenge pour les ménages. Donc, ces différents facteurs qui sont inhérents aux États et au système politique d'une part, et la pression qui favorise l'individualisme, ces deux éléments-là, ces deux volets-là, nous permettent d'expliquer pourquoi aujourd'hui il y a de plus en plus de réticences face aux migrants, face à l'étranger.
Dans ce colloque, il a été rappelé qu'il y avait plus de migration à l'intérieur des pays, des États, que des migrations d'un État à un autre. Alors, ces migrations à l'intérieur, est-ce qu'on a les mêmes problèmes que d'un pays à un autre?
Alors, tout est question de la situation qui prévaut. Si nous sommes à l'intérieur d'un pays et que ce pays est fortement secoué par des crises multiformes et que des communautés entières sont appelées à se déplacer d'un point à un autre à l'intérieur de ce pays, on voit bien que cette migration-là peut avoir des conséquences beaucoup plus grandes et attirer beaucoup plus d'attention. Mais si nous sommes dans une situation de paix, par exemple, et que des facteurs environnementaux poussent certaines communautés à se déplacer vers d'autres communautés, vous voyez qu'on peut appréhender ça différemment. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un État, apprécier la migration dépend de la situation qui prévaut. De façon générale, on voit bien que la migration externe est cette migration qui est la plus abordée dans les questions. Aujourd'hui, les migrations de l'Afrique vers l'Europe défraient la chronique à cause des conséquences, parce que la Méditerranée centrale ou la Méditerranée occidentale, ces zones-là sont devenus des cimetières à ciel ouvert, mais la migration qui s'est faite à l'intérieur du continent est beaucoup plus importante que la migration qui s'est faite du continent africain vers l'Europe. Donc, si nous devons nous prononcer sur le caractère ou alors sur l'importance du type de migration, s'il s'agit de la migration interne ou de la migration externe qui a beaucoup plus d'ampleur, etc., il faut prendre en considération tous ces paramètres que je viens d'énoncer.
Docteur Flan Mokid, il y a quelques questions qui se soulèvent au regard donc de ces thèmes. On se rend compte que dans la société occidentale, puisque très souvent c'est les Africains, les pays du Sud qui se déplacent donc pour aller vers ces sociétés, le migrant qui vient du continent est mal accepté par rapport à celui qui vient de l'Europe de l'Est. Comment on explique ça, puisque tous deux sont souvent issus de situations difficiles et précaires? Comment se fait-il qu'on accepte l'un facilement et puis que l'autre, on est un peu remonté, on refuse d'accorder, j'allais dire, des accompagnements nécessaires? La distinction entre les migrants, pourquoi et à quel objectif?
Merci beaucoup. Il faut relever cette injustice qui existe. On voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Mais comment cela pourrait s'expliquer? D'abord, il y a des préjugés, il y a des clichés qui tardent à tomber. Le regard que les Occidentaux ont des Africains, par exemple, de façon générale, mais parce qu'on ne peut pas dire que c'est un point de vue que tous les Occidentaux ont, non, parce qu'il y a beaucoup d'humanistes aussi en Europe, en Occident. Mais ceux aujourd'hui qui sont en train d'instrumentaliser la question de la migration et qui font la politique en s'appuyant, en capitalisant les craintes et les inquiétudes des uns et des autres concernant les questions identitaires, et il faut, les clichés sont énormes. Et je pense qu'il faut, appeler au sérieux, même à la limite, et au respect de l'individu par ceux qui font cette distinction-là. Parce que si vous mettez en place des dispositifs de sorte à contrôler la migration irrégulière, elle ne doit pas être plus accentuée pour ceux qui viennent de l'Afrique et l'être moins pour ceux qui viennent, par exemple, de l'Afghanistan ou bien des pays en crise en Europe de l'Est. Et ça pose véritablement un problème d'éthique, à la limite. Et je pense que ce qu'il faudrait faire aussi, et l'appel qu'il faudrait lancer aussi, c'est aux communautés africaines elles-mêmes, ceux qui se déplacent, c'est de faire en sorte d'être des modèles, à la limite, dans les sociétés qui les accueillent. Quand je dis des modèles, pas forcément des modèles, mais au moins il faut respecter les lois, il faut respecter les habitudes de ceux qui vous accueillent. Ça devrait aller de soi. Si vous vous retrouvez dans un environnement et que vous-même vous constituez un obstacle à votre propre intégration, vous favorisez ce regard négatif que ceux qui vous accueillent ont sur vous. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qu'il faudrait mettre dans le panier pour comprendre pourquoi il y a cette distinction que les Occidentaux ont sur les Africains et sur les non-Africains, les Européens par exemple, qui émigrent chez eux.
Vous, dans votre intervention, Dr Flan Mokid, vous avez présenté la migration comme une opportunité. En quoi est-ce que la migration peut constituer une opportunité?
Tout simplement parce qu'on peut transformer cette force migratoire en capital humain. On peut tirer des dividendes essentiels pour l'État et pour la société. Je prends les pays européens. Dans le rapport Europe-Afrique, autour de la question de la migration, on voit les barrières qui sont mises, par exemple. Alors que nous savons qu'il s'agit d'une société vieillissante en Europe. Quels sont ceux qui vont travailler, par exemple, pour relever l'économie ou bien pour maintenir ces États au standard ou alors maintenir ces États au niveau de développement où ils sont? Ce sont des forces qui viennent d'ailleurs. Donc il faut appréhender la question de la migration autrement. Alors, la migration est une opportunité parce que la migration offre la possibilité à la diversité de s'éclore, à la diversité de se manifester. Or, la diversité en soi est une richesse, que ce soit une diversité religieuse, une diversité culturelle, une diversité du point de vue même des opinions, cela constitue véritablement une richesse dans une société. En dehors des paramètres qu'on pourrait retenir ici, qui pourraient agir sur l'appareil de production, sur le système économique, etc., mais de façon culturelle et au nom de l'humanité, on devrait comprendre que la migration ne doit pas être un phénomène qu'il faille réprimer comme ça. Et c'est pourquoi, dans un contexte où l'extrême droite est en train de gagner du terrain en Europe, je suis inquiet. Disons que je me lève, en fait, contre ceux qui soutiennent ces mouvements d'extrême droite qui font de la migration ou bien de l'étranger un fonds de commerce.
Mais est-ce que, à l'intérieur des États, comme vous l'avez dit, concernant la migration, est-ce que ces mêmes problèmes ne se posent pas entre les personnes venues des zones difficiles, comme vous l'avez dit, vers les zones propices pour survivre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des conflits? Et s'il y a des conflits, quels sont les mécanismes pour que le migrant puisse être accepté, puisse être intégré? Puisque vous avez dit, à l'intérieur même des États, il y a ces mouvements-là.
Oui.
Et comment c'est géré pour qu'il y ait paix, cohésion et vivre ensemble?
Bien, alors l'État se donne lui-même les moyens. Il met en place des institutions qui s'occupent de ces questions. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire et que nous voyons le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité, ce département solidarité, on voit bien que l'État lui-même met en place des mécanismes pour gérer ces différentes situations. Je voudrais profiter de cet instant pour remercier Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, qui a vraiment pris de son temps et qui a montré son intérêt à travers l'allocution qu'elle a pu livrer à l'ouverture de ce colloque. En tout cas, je voudrais ici, sur vos antennes, avec votre permission, remercier Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, Madame Miss Belmondo Dogo. En plus de cela, en plus des mécanismes que l'État met en place, il y a des communautés. Comme nous sommes dans le cadre de la problématique religion et migration, on va voir qu'il y a, au niveau de chaque communauté religieuse, des instruments et des mécanismes qui sont mis en place pour intervenir de sorte à faciliter l'intégration du migrant, ou du moins la prise en charge du migrant. Si nous prenons la religion catholique par exemple, on sait bien que la Caritas joue un rôle extrêmement important et plusieurs missions de la Caritas ont été déjà organisées dans différents points de la Côte d'Ivoire pour adresser les défis inhérents à cette forme d'immigration interne ou alors même externe pour ce qui concerne les réfugiés burkinabés dans le Bunkani par exemple.
Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les textes religieux, Dr Flamouquet, pour décomplexer le migrant, le terme migration?
D'abord, c'est de s'approprier les éléments fondateurs de la migration dans les religions. Si vous êtes musulman et que vous-même, vous avez compris que le prophète, à un moment donné, a migré, à partir de ce moment, votre regard sur la migration ne peut pas être ce regard que quelqu'un d'autre aurait. Donc, c'est de s'approprier d'abord les dispositions qui sont à l'intérieur. Deuxièmement, il faut amener le migrant lui-même à comprendre que l'environnement dans lequel il est n'est pas son environnement d'origine et qu'il trouve en place des dispositions. Ça peut être des piliers sociaux, ça peut être un dispositif juridique ou bien normatif. Ça peut être tous ces éléments. C'est comment l'amener à comprendre également que non seulement les tests sains ne sont pas contre la migration, donc pas contre le migrant, mais en même temps, dans le contexte actuel, amener le migrant à lui aussi intérioriser le fait que son arrivée dans la société qu'il accueille devrait bien se passer en prenant en compte sa propre participation.
Docteur Flan, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques recommandations du colloque d'Abidjan sur le thème religion et migration? Quelles sont donc les recommandations que les participants ont bien pu faire sur la question donc de la religion et de la migration?
Nous avons eu droit à des ateliers et un sous-thème était en lien avec quelles solutions proposer pour un meilleur impact de l'action des religieux sur la question migratoire. Et là, les recommandations, c'était une question de coordination d'abord. C'est-à-dire comment coordonner l'action entre les acteurs religieux, les acteurs étatiques, les acteurs traditionnels, de sorte à avoir un mécanisme huilé, non répétitif, non redondant, et qui permette effectivement d'atteindre des objectifs. L'autre élément, c'est comment structurer le plaidoyer pour que les résolutions qui ont été prises lors de ce colloque puissent avoir leur impact. À partir de ce moment, il y a eu des propositions, par exemple, à l'endroit des États, à l'endroit également des communautés religieuses elles-mêmes, à l'endroit de l'OIM, etc., etc. Donc, en substance, toutes les solutions qui ont été proposées vont faire l'objet d'un document, parce que ça fait partie de la suite du colloque. Le Centre de recherche politique d'Abidjan rédige non seulement les actes du colloque, mais à partir des différentes présentations, écrit un document d'orientation, donc un policy paper d'une dizaine de pages, dans lesquels seront compilées essentiellement les recommandations de ce colloque que nous allons déposer auprès des différentes structures.
Alors, dernière préoccupation, Dr. Flan Amoké, qu'est-ce que nous devons retenir donc du thème religion et migration qui a eu lieu donc au cours de ce dialogue interreligieux? Si on devrait résumer en deux phrases, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
On pourrait dire que les religions ne s'opposent pas à la migration et que d'ailleurs, dans toutes les religions, la problématique de l'étranger, donc du migrant, comme on peut l'appeler aujourd'hui, est essentielle et se colle même à l'histoire des religions. Et deuxièmement, c'est que la religion ne doit pas constituer un facteur d'aggravation de la migration. Et puis, enfin, que les différents acteurs religieux sont des acteurs clés dans la question relative à la prise en charge du migrant partout où qu'il soit. Voici ce qu'on peut retenir de ce colloque.
Merci beaucoup, Dr. Flan Amoké. C'est la fin de la grande interview. Nous recevons Dr. Flan Amoké, directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, qui revenait sur la recommandation du colloque d'Abidjan sur le dialogue interreligieux avec pour thème religion et migration. La grande interview, présentation Ben Diakité, réalisation Sila Mamadou Kaba.
Vous venez de suivre la grande interview.